Il est 17h sur Fréquence Mistral 99.3 à Digne. C'est l'heure de l'émission en direct jusqu'à 18h. Cette émission qui a pour titre Du coq à l'âne. Et aujourd'hui, dans Du coq à l'âne, je reçois M. Jean-Christophe Labadie, directeur des archives départementales à Digne. Bonjour, M. Labadie.
Bonjour.
Et nous allons parler pendant une heure de cette exposition qui a été donc mise en place le 14 septembre 2012, qui se terminera le 14 mai 2013 et qui s'intitule Saint-Marcel Hessérick, photographe en Haute-Provence 1860-1915. Alors Jean-Christophe Labadie, Saint-Marcel-Hessérick, vous le connaissez bien.
Ah oui, alors c'est vrai que je fréquente Saint-Marcel-Hessérick depuis mon arrivée dans le département en juillet 2010. Pourquoi ? Parce que tout simplement, dès les premières semaines de mon parcours professionnel, on m'a indiqué effectivement ce fonds, qui est un fonds de plaques photographiques qui était très connu, que certains historiens avaient eu en main, des érudits locaux, qui avaient donné lieu d'ailleurs à quelques petites expositions à Sisteron. Et donc j'ai pu rencontrer les descendants de Saint-Marcel-Hessérick qui possédaient encore à Sisteron ce fonds de plaques de verre. Alors, pour moi, c'était très important parce que c'est un fonds. Il y a très très peu de représentations de la vie locale cisteronaise, mais aussi bien plus large du département et au-delà des départements voisins. Donc c'était important de pouvoir réussir à faire entrer aux archives départementales ce type de fonds, car nous sommes plutôt habitués, nous, à des archives papier ou parchemin, donc à de l'écrit, et il paraît intéressant aujourd'hui et de plus en plus de s'intéresser à des collections d'images, que ce soit des images fixes comme la photographie ou des images animées comme le cinéma. Voilà. Donc, ce qui fait que je suis rentré en rapport avec les descendants d'Hessérick, enfin, la branche descendant de la sœur cadette de Saint-Marcel. Saint-Marcel a eu trois enfants, deux filles et un garçon, qui ont laissé une postérité. Et j'ai donc réussi à convaincre cette famille de vendre ces plaques de verre pour qu'elles puissent rentrer dans les collections, une collection publique, donc aux archives départementales. Voilà, alors c'était très important, pour, entre autres aussi pour assurer la pérennité de ces fonds, car ce sont des fonds fragiles. La photographie, la plaque photographique, enfin le négatif sur plaque de verre est assez difficile à conserver. Il nécessite des conditions très particulières. Et donc, on est quand même presque un siècle et demi après la production des premières plaques. Et donc, pour des questions vraiment de conservation, il m'était apparu important de faire entrer ce fonds. La deuxième chose, c'est évidemment, ces plaques de verre rentrent dans une collection publique. Et de ce fait, elles sont accessibles à tout un chacun. Et chaque personne, que ce soit un simple citoyen qui s'intéresse à l'histoire locale ou à un historien d'envergure, chacun a tout à fait la possibilité d'accéder à ces plaques de verre. Alors voilà, donc une fois les plaques de verre rentrées aux archives départementales, alors ça s'est fait en décembre 2010, a commencé un travail très très long qui a duré quasiment un an, plus d'un an, enfin, qui a consisté à assurer donc la pérennité des plaques de verre. La première chose, c'est d'abord on a quelque chose, on le nettoie et on lui assure sa pérennité en modifiant les conditions de conservation. En l'occurrence, les plaques étaient conservées dans des boîtes en bois d'origine ou des carton, ce qui est très mauvais pour la conservation des négatifs. Donc il a fallu les sortir et les conditionner dans du papier neutre, dans des boîtes qui ont été faites sur mesure à partir de matériaux neutres pour assurer leur pérennité. Donc cette chose faite, on a pu commencer à traiter le fond. On appelle ça le traitement intellectuel dans notre métier, c'est-à-dire en l'occurrence, tout simplement savoir ce qui est représenté sur ces images, sur ces plaques. Et là, c'était un travail très long parce qu'on n'imagine pas le travail qu'il faut pour le temps qu'il faut pour traiter 1658 plaques de verre, sachant que ces plaques sont de divers formats et que par conséquent, on ne peut pas faire un travail systématique. Il faut faire au plaque par plaque en donnant une cotation et puis donc pour les repérer et puis ensuite en essayant de savoir de quoi il s'agit. Alors là, il y avait deux difficultés. La première, c'est que les plaques avaient été mélangées par les descendants des Sériques tout au long, en gros, pendant un siècle, ce qui fait qu'on ne retrouvait plus le classement qu'Essérique avait réalisé et qu'il avait indiqué sur des cahiers de sa main. On était donc dans l'incapacité de faire le lien entre les deux. Par ailleurs, autre problème, les plaques n'étaient pas datées. Donc on avait des plaques, on savait en gros qu'elles étaient du XIXe siècle, de la deuxième moitié du XIXe siècle, quelques-unes du début du XXe siècle, mais sans plus d'indications. Donc il a fallu faire ce double travail. D'une part, de quoi s'agit-il? D'autre part, donner une date. Et là, c'était très compliqué. C'est un travail en fait qui s'est fait au fur et à mesure, avec beaucoup de reprises pour essayer de préciser les choses. Et puis aussi un travail qui s'est fait grâce à partir des tirages papier qui avaient été faits du vivant des Sériques, qui portaient quelquefois des indications sur la nature de l'image et sur l'époque où cette image avait été prise. Alors à partir de ce travail donc, qui a duré quasiment un an, on a pu avoir une idée assez précise de la collection. En fait, cette collection elle a été constituée à partir de 1860, quand Essérique s'installe à Marseille, il est juge, et comme son père d'ailleurs, commence son activité professionnelle à Marseille. Et c'est là qu'il rentre à la Société photographique de Marseille et qu'il prépare ses premières photographies. Alors il utilise une technique qui permet de dater aussi les plaques, qui est le collodion humide. C'est une technique qui donne un négatif de très très bonne qualité, très fin, avec beaucoup de finesse. Ça donne presque un positif si on le pose sur du papier noir. En revanche, c'est une technique qui a comme principal inconvénient le temps d'exposition et le fait qu'il faut faire le tirage et le développement quand le support est humide. Voilà, donc ce qui veut dire qu'il faut amener avec soi son petit laboratoire pour photographier des images qui sont essentiellement des images d'objets fixes, car le mouvement, évidemment, ne peut pas être montré, car le temps d'exposition dure plusieurs secondes, jusqu'à 30 secondes en fonction des conditions de luminosité. Et par conséquent, c'est une technique qui est très utile pour les monuments, par exemple, qui est évidemment beaucoup moins pratique pour tout ce qui est animé, comme par exemple les portraits. Donc cette technique, il l'utilise en gros jusque dans les années 1870, jusqu'à la fin des années 70, et puis à partir des années 1880, il utilise une autre technique qui a été inventée quelques années auparavant, qui est la technique du gélatino-bromure d'argent, qui est la technique que tous les photographes vont utiliser ensuite et qui va avoir un succès tellement important que même jusque dans les années 1950, on utilise encore cette technique pour des négatifs de très bonne qualité. Cette technique permet de se déplacer avec des négatifs dans de bonnes conditions, dans des chambres noires en fait, et puis qui permet aussi de les développer bien après la prise photographique. Voilà, donc on peut dire qu'en gros, on a deux périodes dans la production de Saint-Marcel et Sériques. Une période où on a à peu près moins de 200 plaques qui concernent la période collodion 1860-1880, et puis ensuite, plus de 1000 plaques, 1300-1400 plaques qui sont faites selon la technique du gélatino bromure d'argent. Alors cette technique, Saint-Marcel et Sériques va beaucoup la travailler. C'est un homme qui s'intéresse beaucoup aux questions scientifiques de son époque. On a par exemple des notes sur le téléphone, l'usage du téléphone, sur les techniques mises en œuvre pour le téléphone, pour la lumière, etc. Et donc Saint-Marcel et Sériques s'intéresse beaucoup à la photographie en tant qu'amateur, mais un amateur éclairé. et par conséquent, on lit beaucoup d'ouvrages, tous les ouvrages qui sortent en fait au cours de cette période, pour essayer d'améliorer sa technique photographique, sa manière de prendre les vues, comme sa manière de développer les images et d'en faire des tirages. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est au départ à une culture juridique, il a fait des études donc, de droit, il a donc suivi le cursus pour devenir juge, mais il n'empêche qu'il s'intéresse à des questions scientifiques de son époque, et en particulier donc à tout dans le domaine de la chimie. Alors Saint-Marcel et Séric essayent donc... c'est assez amusant d'ailleurs parce qu'on a, ses cahiers justement où il notait boîte par boîte ce qu'il y avait à l'intérieur, d'ailleurs dans un certain désordre d'une certaine manière, mais il mettait à côté des appréciations. Alors il mettait B pour bien, P pour passable, vous voyez, etc. Donc ce qui fait qu'il essayait vraiment... c'était pas simplement quelqu'un qui j'allais dire, prend des photos pour prendre des photos, des photographies, mais c'est quelqu'un qui essaie de faire une belle image. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire, et ça c'est aussi l'un des avantages de cette collection, c'est qu'on a des images d'une très très grande qualité. J'allais presque dire, parfois, même souvent, bien meilleures qu'un photographe professionnel. On a des plaques, on a d'autres collections de plaques, entre autres de photographes professionnels, qui n'ont pas la qualité photographique de Saint-Marcel et Séric. Et vraisemblablement, les plaques qu'on a aujourd'hui sont des plaques que Saint-Marcel et Séric a choisi de conserver. Il n'est pas impossible qu'il ait fait un tri et qu'il ait éliminé un certain nombre de plaques qui ne lui convenaient pas. Voilà, ce qu'on trouve par ailleurs dans d'autres collections, on a les bonnes plaques, mais aussi les mauvaises, celles qui étaient mises un peu de côté, mais qu'on conservait quand même. Saint-Marcel et Séric, ce n'est pas le cas. Les plaques de verre qu'on a sont plutôt de bonne qualité, et comme elles étaient plutôt bien conservées, on a aujourd'hui des négatifs. Quand les personnes viennent voir l'exposition, ils sont... presque fascinés hein, par la manière dont l'image est montrée. On a tellement maintenant une vision, j'allais dire, de l'image numérique qu'on a perdu cette profondeur, ce grain qu'on retrouve dans la photographie argentique, en l'occurrence, et qui donne toute sa valeur, enfin une valeur aussi, à cette collection qui est, c'est vrai, exceptionnelle à bien des égards.
Oui, il y a bien des égards aussi, car c'était l'époque où la photographie n'était pas aussi répandue. Chacun ne possédait pas son appareil qu'il pouvait laisser au fond d'une poche. C'était vraiment un travail de passionné.
Alors c'est vrai. On a aussi, alors l'histoire est un peu compliquée de Saint-Marcel et Séric, enfin, l'histoire de la collection de Saint-Marcel et Séric, car quand on a acquis les plaques de verre donc de cette branche qui descendait donc de la fille cadette de Saint-Marcel et Séric, on ne connaissait pas à ce moment-là l'autre branche qui descendait, elle, de la fille aînée de Saint-Marcel et Séric. C'est en fait au cours de ces mois de traitement qu'on a rencontré justement les descendants de cette branche qui eux-mêmes possédaient des plaques de verre et surtout tout le matériel photographique de Saint-Marcel et Séric. Et donc on a pu, alors on le connaissait un peu sur les images, quelquefois on a des images où il y a une sorte de mise en abîme en fait, le photographe qui est photographié par une autre personne, donc on avait une idée de ce qu'il utilisait comme matériel, mais là on a vraiment son matériel, et d'ailleurs dans l'exposition on présente l'appareil photographique, la chambre noire de Saint-Marcel et Séric, et son appareil photographique, qui est un appareil de très bonne qualité, acheté en Angleterre, qui est un appareil effectivement très gros, assez lourd, sur un trépied, qu'il utilisait sur un trépied, avec une chambre qui contenait des plaques de verre qui lui permettaient effectivement de se déplacer, d'aller un petit peu partout avec tout son matériel pour assurer sa photographie. C'est vrai qu'on n'a pas... La photographie, à ce moment-là, est un travail très réfléchi où quand on veut photographier, quel que soit le sujet, que ce soit un sujet fixe ou faire un portrait, on a l'obligation effectivement de prendre son temps, de poser son matériel, de faire attention à la lumière, de se faire attention aux questions d'orientation, aux questions de cadrage, parce que c'est aussi un problème, et évidemment au sujet qu'on va montrer. Donc voilà, donc on a effectivement quelque chose qui est très élaboré dans sa conception même. C'est-à-dire que c'est évidemment l'inverse du mitraillage photographique qu'on pourrait aujourd'hui, qui est aussi une pratique photographique que permet donc le numérique. On n'est pas du tout dans ce cadre-là. Par ailleurs, il y a les questions de coût. Une plaque de verre, ça a un coût. Et par conséquent, on utilisait d'ailleurs quelquefois, et Saint-Marcel et Séric le fait assez peu, quelquefois qu'une partie de la plaque de verre qu'on exposait pour utiliser pour un autre cliché l'autre partie. Il le fait un petit peu quelquefois quand il a un sujet fixe, qu'il veut faire deux images. On a la moitié, en fait, il utilise la moitié d'une plaque de verre pour la première image et il expose en fait pour la deuxième image l'autre moitié de la plaque de verre. Il fait deux images sur une même plaque. Mais il faut des plaques d'un certain format évidemment pour faire ça. Saint-Marcel et Séric d'ailleurs a utilisé une autre technique, j'en ai pas parlé. Surtout dans la première période, la photographie au collodion, il utilise en fait la technique de la stéréoscopie. En l'occurrence, c'était très à la mode au 19e et même au début du 20e. L'idée, c'était de montrer les images, de créer un relief, l'illusion du relief. Et donc, en fait, les chambres avaient deux objectifs, avec un décalage qui correspond à peu près à la vision humaine. Et ensuite, on avait donc une plaque de verre avec deux vues presque symétriques, mais pas tout à fait, pour justement créer l'illusion de la profondeur quand on le mettait en fait dans un appareil stéréoscopique qui était donc à deux avec deux objectifs, voilà, et qui permettent donc de voir cette illusion de relief. Voilà, Saint-Marcel Séric a utilisé un petit peu cette technique, pas trop, mais on a aussi quelques images de ce type-là qui donnent encore une autre façon pour dire aussi qu'il utilise les techniques de son époque. Il essaie, voilà.
Il est à la pointe du progrès.
Tout à fait, voilà. Donc c'est vraiment quelqu'un qui essaie des choses, qui tente des choses, soit en travaillant sur des très grands formats de plaques, soit en travaillant sur des petits formats, soit même, comme on a les boîtes d'origine en carton, on a des provenances très diverses. Il a des plaques qu'il achète à Marseille, d'autres à Paris, d'autres qui sont des plaques Kodak, et puis aussi d'autres qui sont des plaques achetées en Allemagne, selon des formules de professeurs, vous voyez, donc de chimistes en fait, qui sont un peu particulières, pour essayer justement de trouver la plaque qui convient bien au sujet qu'il veut montrer, en fonction évidemment du temps qu'il fait, de la luminosité qu'il va trouver dans les Alpes, qui n'est pas la même que quand il photographie, par exemple, à Arles, un sujet.
Oui, c'est comme quand l'argentique était encore roi, on choisissait sa pellicule en fonction du sujet.
Exactement.
Voilà. Et est-ce que vous connaissez la plus grande dimension de plaque qu'il utilisait ?
Alors en fait, la plus grosse plaque, alors je n'ai pas la mesure en tête, en gros, ça correspond à peu près à 30 cm, entre 20 et 30 cm, vous voyez, de côté. Donc ce sont des plaques quand même qui sont de la taille d'un cahier, vous voyez, enfin, et même plus grosses encore. Hein. Donc on a des plaques qui sont de très très grandes dimensions. La plupart des plaques sont des 13-18 ou des 21-24, mais il utilise des plus petites plaques ou des plus grosses plaques en fonction des besoins. Je crois vraiment que c'est quelqu'un qui expérimente et qui a le souci de faire le plus beau négatif possible.
Oui, puis c'était l'époque où on posait la plaque sur le papier. On n'avait pas besoin d'agrandisseur.
Exactement. En fait, on a donc, grâce à l'autre branche de la famille, eu des tirages originaux entre les mains qui ont été prêtés. Et effectivement, on a exactement le format de la plaque. Hein. C'est-à-dire que là, c'est effectivement très facile de faire un tirage. On n'est pas on n'a pas de question d'agrandisseur. C'est tout à fait intéressant. Et par ailleurs, nous, je vous le disais tout à l'heure, on était très friands des tirages, car ça donne une indication, souvent il y a une indication qui est associée au tirage, qui est soit une indication de date, soit une indication de sujet. Donc ça nous permet d'identifier plus facilement nos plaques.
On va faire une petite pause musicale avec les frères Jacques qui s'intéressent eux aussi à la photographie.
Pas de raison pour qu'on les oublie, les beaux yeux des beaux jours passés. Est-ce que c'est beau, la photographie, le soleil qu'on fait prisonnier. Pas de raison pour qu'on les oublie, les petites femmes en petite robe d'été. En noir et blanc, au 50e, ça fait de l'effet sur la matinée. Et c'est pas rare qu'on s'en souvienne, comme si elles étaient en couleur. Parce que c'est beau, la photographie, touchons plus, l'amour va passer. Y'a pas de raison pour qu'on oublie sa petite gueule sur l'instantané. Thank you. récemment sur papier chamois. Pas un pour qu'on les oublie, les belles heures des beaux autrefois. Que c'est beau la photographie, on choisit l'instant et l'endroit. Pas un pour qu'on les oublie, les petites femmes en vie robe à poids. En noir et blanc, on voit pas comme ça fait de l'effet sur la vapeur. Mais qu'une main ouvre l'album et tout se retrouve en couleur. Parce que c'est beau la photographie. Bougeons plus, l'amour va passer. Un, deux, trois, c'est la plus jolie. Agrandi, vous l'encadrerez. Bougeons plus, attention, un, deux, trois, j'appuie. On sourit pour l'éternité.
Eh bien, déjà, quand on repasse à Saint-Marcel-et-Séric, drôle de patronyme, entre parenthèses.
Oui, alors c'est vrai que Saint-Marcel, en fait, a été donc le prénom qui lui a été donné au moment de sa naissance, qui renvoie aussi à une partie de la famille qui avait des liens, des relations commerciales avec la Guadeloupe. C'est pour ça qu'on a ce prénom qui est un peu particulier. Alors c'est vrai que dans l'usage courant, on devait l'appeler Saint-Marcel. En revanche, quand il se présentait à l'extérieur, on le trouve sous la forme Marcel et Séric. Alors c'est l'occasion effectivement d'évoquer ce personnage, qui est quand même un personnage très singulier, qui est à la fois, comment dire, un personnage tout à fait typique de son époque, et puis qui en même temps présente, comment dire, quelques traits originaux qu'on ne retrouve pas forcément dans ces notables de la fin du XIXe siècle, qui sont des héritiers pour la plupart, héritiers de familles d'origine paysanne ou artisane. C'est le cas donc de la famille Essery, qui vient de la vallée du Jabron, exactement de Noyers, Saint-Vincent et village voisin. Ces personnages, en fait, cette famille était dans un processus d'ascension sociale au XVIIIe siècle. La Révolution leur profite beaucoup et on les retrouve au XIXe siècle occupant les métiers du droit, ce qui est tout à fait classique dans l'évolution sociale de ces familles d'origine rurale. Alors Saint-Marcel et Séric, je l'ai dit tout à l'heure, son père était juge. Il a fini sa carrière comme président du tribunal à Sisteron, d'où était d'ailleurs installée donc toute la famille. Ils habitaient à Sisteron. Saint-Marcel et Séric lui-même est né à Sisteron. Et il a, comme je le disais tout à l'heure, embrassé la carrière de juge, mais pas très longtemps. En réalité, son père mort dans les années 60, lui-même démissionne de sa fonction. Alors j'ai dit, il a commencé sa carrière à Marseille, ensuite il travaille quelques années à Fort-Calquier comme juge, et puis donc il démissionne. Pourquoi ? Alors, il y a tout ça ne sont que des hypothèses, mais vraisemblablement, sa démission est liée, certes, à la mort de son père, à l'héritage qu'il fait, car c'est une famille quand même qui a quelques moyens financiers, qui a des propriétés, qui a des biens, mais sans doute plus encore à son beau-père. Saint-Marcel et Séric a fait un beau mariage, bien doté, il a donc un capital important. Son beau-père est un industriel marseillais, qui a fait fortune et qui associe en fait son gendre dans la bonne marge de ses affaires. Alors c'est assez amusant quand on y pense, ce sont des personnes qui ont fait fortune grâce aux allumettes. Alors c'est en fait une histoire un peu particulière, donc la manufacture je crois était installée à la Belle de Mai à Marseille. Les allumettes vont être, le secteur des allumettes va être nationalisé à cette époque-là, et les industriels vont recevoir donc des compensations financières, les propriétaires en fait vont recevoir des compensations financières, soit ils vont utiliser ces compensations financières pour autre chose, soit ils vont utiliser ces compensations financières pour réinvestir cet argent. C'est ce que va choisir Essery et son beau-père, et donc les propriétaires de cette manufacture d'allumettes. Et ils vont donc investir, construire des usines d'allumettes en Italie et en Belgique, ce qui va leur assurer leur fortune. Essérick démissionne, il ne démissionne pas pour ne rien faire, il devient, entre guillemets, on l'appelle à l'époque un industriel, c'est-à-dire qu'en fait, en l'occurrence, il s'occupe de ses affaires, il va habiter d'ailleurs un temps à Paris, et puis, alors, la famille raconte une histoire, quand il est à Paris, il vient quelquefois donc à Sisteron, puisqu'il possède toujours des biens à Sisteron, et quand il vient donc à Sisteron, Essérick fait des photos, qu'il remonte à Paris pour les montrer à toutes les personnes qu'il côtoie, en montrant. La famille raconte qu'il montrait ces images à ses voisins, à ses connaissances, pour qu'ils aient une idée de ce qu'étaient à l'époque les Belles Alpes. Voilà. Donc Saint-Marcel et Essérick reste quelque temps à Paris, et puis achète dans les années, tout au début des années 1880, une maison qui va rester dans la famille, qui est un ancien couvent à Sisteron, qui est une très grande maison, qui est un peu, qui nécessite quelques réparations. Donc il l'achète et il décide d'investir pour totalement la transformer, ce qu'il va donc faire, il va construire un étage supplémentaire, il va refaire faire tout l'intérieur pour avoir une maison digne de ce nom avec un parc, parce qu'il réaménage totalement le parc, pour qui correspond en fait à son statut social, sachant que auparavant il avait lui-même transformé la maison familiale, qui est la grande bastide à Noyers, en lui associant des tours, etc. Donc en fait, il avait déjà commencé, grâce à ses moyens financiers dans les années 1870, à faire des travaux pour avoir, comme tout bon notable de l'époque, une maison à la ville et une maison à la campagne. Voilà. Donc c'est vrai qu'il se partageait entre ces deux maisons et il entretenait une domesticité, évidemment, pour pouvoir vivre selon son rang. Mais il s'est beaucoup occupé aussi de ses neveux, de ses nièces. En fait, il a un petit peu élevé le reste de sa famille. Alors, Saint-Marcel Essérick donc devient ce qu'on appelle un rentier, c'est-à-dire quelqu'un qui oisif, entre guillemets, et qui donc, grâce à ses revenus, ses placements, bénéficie donc de la rente et qui peut donc, de fait, occuper sa vie avec différents loisirs qui sont pour lui essentiellement des loisirs de nature historique. Il s'intéresse beaucoup à l'histoire de Sisteron, beaucoup à l'histoire de sa famille. Il s'intéresse aussi beaucoup à l'histoire du département. Il s'intéresse encore à tout ce qui concerne le domaine des monuments historiques. Il est investi d'une mission dans ce secteur. Donc Saint-Marcel Essérick va mettre en pratique sa pratique photographique au service de ses passions. Passion, donc, je dis, pour l'histoire, passion pour le patrimoine. Donc il photographie beaucoup les monuments historiques. Et puis passion aussi pour les livres. Il est un grand collectionneur de livres. Passion aussi pour ses collections de médailles, de décorations. On a beaucoup d'images qui représentent, en fait, tout simplement, Saint-Marcel a photographié ses collections de décorations dont il devait être très très fier, sans doute. C'est vrai aussi qu'il avait de très belles collections d'armes, qu'il collectionnait aussi du lapidaire. Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse à tout le domaine de l'histoire dans toutes ses dimensions, dans toutes ses composantes, et qui constitue de son vivant une très belle collection constituée de diverses collections dont la photographie fait partie, mais la photographie est aussi une manière de représenter ses propres collections ou ses propres intérêts. Vous voyez, donc Saint-Marcel Essérick utilise la photographie de plusieurs façons. D'abord, tout simplement dans le cadre familial, il photographie ses filles, ses neveux. Il photographie beaucoup ses domaines, ses biens. Je dis toujours, pour comprendre la construction de sa collection photographique, Saint-Marcel Essérick, en fait, ce sont les lois de proximité qui comptent, en fait. Proximité psychologique, proximité familiale, proximité géographique. Et même quand il s'intéresse à des aspects nouveaux, c'est toujours lié à une géographie proche. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qui s'est passé à côté de chez lui. Il n'ira pas faire forcément de la photographie très très loin. Quand on a des images qui sont très très loin, par exemple, on a des images d'Avignon, c'est lié tout simplement au fait qu'il avait un ami à Avignon, et donc il a photographié, enfin, à Villeneuve-les-Avignon, et qu'on a donc des vues faites de la maison de son ami de Villeneuve vers Avignon, donc des vues panoramiques. Il photographie aussi une usine de sucre dans la région marseillaise. Eh bien, c'est lié aussi tout simplement à l'activité de son gendre. Voilà, donc c'est toujours cette proximité qui compte pour Saint-Marcel Essérick. Saint-Marcel Séric, donc, va continuer sa vie, en gros, à Sisteron. Il va s'essayer à une carrière politique. Il se présente à la députation. C'est un conservateur, évidemment, mais il se fait battre d'assez peu, d'ailleurs, finalement. Mais ça arrête complètement ses prétentions dans le domaine politique. Il ne s'est jamais représenté après. Il est quand même, comme son père, élu au conseil municipal, conseil général. Il a quand même une activité classique. Je le disais tout à l'heure, c'est un homme paradoxal, un homme qui s'intéresse à la science et au progrès. C'est aussi un homme tout à fait classique, un notable, tel qu'on le concevait donc à la fin de ce Xe siècle, un notable en province, qui a quand même beaucoup de moyens financiers.
C'est la figure de l'érudit.
Exactement. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui... C'est en fait une sorte de, un peu comme l'érudit du 19e, c'est en fait un autodidacte d'une certaine manière, quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire, qui apprend l'histoire, comme il a appris la science, et qui... essaye de multiplier les rencontres. Alors, je ne l'ai pas dit, mais il baigne dans un milieu, évidemment, intellectuel, constitué de notables, de Sisteron, mais aussi à Fort-Calquier. Hein. Il a fréquenté des cercles littéraires, scientifiques, historiques. Il fait partie aussi de la commission qui va installer le musée à Digne. Voilà, c'est quelqu'un qui, vraiment, n'est pas tout seul. Hein. Il est dans une ambiance qui l'amène, en fait, à fréquenter différentes type de personnes, qui se ressemblent tous un peu, mais à échanger et à élaborer ensemble une histoire qui est celle du département. Ce sont des gens qui vraiment s'intéressent au département. C'est tout à fait important de le dire. J'en parlerai après quand j'évoquerai le contenu même de la collection, mais il y a vraiment cet intérêt aussi quand même pour son environnement proche. Il y a une évolution que j'évoquerai, mais il y a vraiment une évolution dans sa manière de photographier, mais aussi, grâce aux techniques tout simplement, mais aussi sur les sujets photographiés. Et ça, je l'évoquerai tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment cette figure de l'érudit qu'il faut bien saisir, qui a les moyens de ses ambitions d'une certaine manière et qui peut donc investir. La famille me racontait aussi que Saint-Marcel et Séric avaient un réseau de correspondants qui lui signalaient les choses achetées, vous voyez, les choses qui étaient intéressantes pour lui par rapport à sa propre logique qui est celle de l'histoire locale. Voilà, donc il bénéficiait de tout ça et on devait sans doute lui indiquer à tel endroit qu'il y avait telle chose à acheter, vous voyez, et donc comme il avait les moyens de le faire, il le faisait. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Pour dire aussi que Saint-Marcel et Séric n'a pas été tout seul à faire de la photographie. Il a initié aussi un de ses neveux, c'est très important. Il y a dans sa famille, donc, il avait une famille assez large. Hein. Il avait donc un neveu qui a fait de très belles études aussi et qui s'est intéressé très tôt à la photographie. On a donc à un moment donné d'ailleurs un chevauchement entre les photographies de Saint-Marcel et Séric, dans la première partie du XXe siècle, en fait, et les photographies de ce neveu, à tel point que quelquefois, on a du mal à savoir qui a fait quoi. Alors, on le voit grâce aux techniques, les techniques ne sont pas exactement les mêmes. Et puis, bon, il y a aussi, j'allais dire, le style. Vous voyez, le Saint-Marcel et Séric a une manière de faire qui est propre à lui et qu'on ne retrouve pas dans certaines plaques. Et donc, on peut tout à fait envisager l'idée que c'est son neveu qui a fait les photographies. Il faut dire aussi que, je ne l'ai pas dit, mais on n'a pas toutes les plaques de Saint-Marcel et Séric. Au total, on en a aux archives départementales 1675. Je l'ai dit tout à l'heure, il y avait une autre branche de la famille qui possède plusieurs centaines de plaques que cette branche a eu la gentillesse d'ailleurs de nous prêter, qu'on a pu numériser, mais qu'on ne peut pas présenter comme les autres. Voilà, mais qui nous ont permis de travailler sur le fond, puisque d'une certaine manière, c'était vraiment une partie de la collection. On a exactement le même type de conditionnement, ça correspond exactement à la même période. On a des sujets voisins, on trouve des plaques d'ailleurs de quasiment les mêmes dans les deux collections. Vous voyez, donc on avait. Et puis il y a aussi des plaques ailleurs, Sisteron, la mairie de Sisteron, les archives municipales en possèdent quelques-unes aussi. Voilà, on a comme ça. Plusieurs lieux où il y a des plaques ou des tirages, comme par exemple à Fort-Calquier. Les archives municipales possèdent quelques tirages dans la collection Plochu de Saint-Marcel et Séric. Voilà. Donc on a maintenant une bonne connaissance quand même du personnage qui n'hésitait pas aussi à offrir des tirages photographiques à ses relations, à ses amis.
Jean-Christophe Labadie, vous sentez-vous des affinités avec le personnage de Saint-Marcel et Séric ? Car en vous écoutant, on se rend compte que vous faites pratiquement le même métier, entre guillemets.
Alors, est-ce qu'on fait le même métier? Je ne sais pas. Mais alors, vous savez, je crois que c'est une question de fréquentation d'abord. C'est-à-dire que le travail qu'on a fait, je l'ai dit, c'est un travail de longue haleine. On a commencé donc en 2010. Et finalement, on vient juste de le terminer, puisque on l'a terminé. Alors, on parle de l'exposition, mais on a mis aussi en ligne les images de Saint-Marcel-et-Céric sur le site internet des archives départementales. On les a mises en ligne à Noël, le dernier Noël. Hein, donc, vous voyez, c'est tout à fait récent. Ouais. Voilà. Et puis, par ailleurs, on a mis aussi en ligne ce qu'on appelle un instrument de recherche. Voilà. Donc, Saint-Marcel-et-Céric, on l'a fréquenté pendant très longtemps. Moi et d'autres agents du service, on en a beaucoup parlé. Et puis, par ailleurs, alors je ne l'ai pas dit, la famille de Sisteron nous a prêté aussi beaucoup de pièces de Saint-Marcel-et-Céric, des documents officiels, quelques rapports, vous voyez, donc on a même sa mallette personnelle avec à l'intérieur donc le rangement de ces documents, alors les plus importants qui concernent donc son état civil, celui de sa famille, de son fils Marcel-et-Céric lui aussi, de ses biens. Vous voyez, on avait aussi une bonne idée de sa fortune grâce à ces documents-là. Chose qu'on ne trouvait pas forcément facilement aux archives. On peut trouver évidemment des documents, mais vous savez, tout ce qu'on appelle les archives privées nous échappe. Et donc là, alors c'est vrai qu'on rentre un petit peu dans le personnage. Vous voyez, au fur et à mesure de la recherche, l'objectif étant toujours de garder quand même un certain recul, hein, c'est un objet historique. Il n'empêche qu'on peut effectivement trouver des liens. Saint-Marcel-et-Céric, c'est quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à l'histoire, c'était un collectionneur. Un archiviste n'est pas un collectionneur, hein, il ne raisonne pas de la même façon. Lui s'intéresse surtout à avoir des fonds qui correspondent, comment dire, c'est d'ailleurs très différent de la des collectionneurs. Le collectionneur cherche à avoir des belles pièces. Nous, on cherche à avoir on cherche l'intégrale, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, dans la collection Saint-Marcel-et-Céric, par exemple, il y a de très très belles plaques, puis d'autres qui paraissent dérisoires, vous voyez, qui sont beaucoup moins intéressantes du point de vue du sujet, qui sont beaucoup moins intéressantes du point de vue de la qualité, mais pour nous, qui sont très importantes, car grâce à ce fonds, on arrive à comprendre la logique même du fonds, de sa construction, de sa chronologie, des sujets qui ont intéressé ou pas Saint-Marcel-et-Céric à un moment donné de sa vie. Vous voyez, tout ça, c'est important. C'est vraiment, vous voyez, une démarche très différente. Le collectionneur cherchera la belle pièce. D'ailleurs, il manque quelques documents grâce aux prêts que nous ont fait les uns et les autres, que ce soit des plaques de verre ou des tirages. On s'est aperçu qu'il y a des plaques qu'on n'a pas, qu'on ne trouve plus, parce que ces plaques, justement, ont été prêtées à des collectionneurs ou à des historiens, parce qu'elles présentaient un intérêt particulier, mais on ne les a plus. Voilà.
Il reste peut-être des tirages de ces plaques.
Voilà, peut-être aussi des... Voilà. Donc, du coup, on sait aussi, grâce à tout ça, ce qu'on n'a pas. Vous voyez, donc on a quand même une très très bonne idée de la collection. On regrette, évidemment, de ne pas avoir... alors, ce qui nous manque le plus, en fait, de Saint-Marcel-et-Céric, pour bien rentrer dans le personnage, ce sont des écrits personnels. On a très peu de correspondances personnelles et surtout, on n'a aucun document où il explicite sa démarche. Vous voyez, on aurait été très heureux de trouver un document ou une lettre qu'il écrit à un ami, par exemple, pour dire pourquoi il fait ça, de quelle manière il le fait. Vous voyez, ça, on ne l'a pas. Donc après, sur les motivations de Saint-Marcel-et-Céric, on ne peut qu'avancer des hypothèses. On regrette évidemment de ne pas avoir ce type de documentation.
On va refaire une pause musicale. Ça va être « Si la photo est bonne », Barbara.
Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, il y a le voyou du jour qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice, il y a l'assassin de service qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant. Coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table, que j'aimerais qu'il vienne pour se mettre la mienne. Si la photo est bonne, il est bien de sa personne, n'a pas plus l'air d'un assassin que le fils de mon voisin. Ce gibier de potence, pas sorti de l'enfance, va faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère. Bref, on va pendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux. Moi qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant de voir tomber des têtes à la la fin ça m'empête. Et mon mari, le président, qui m'aime bien, qui m'aime tant, quand j'ai le cœur qui flanche, tripote la balance. Si la photo est bonne, qu'on m'amène ce jeune homme, ce fils de rien, ce tout est pire, cette crapule au tout sourire, ce grand gars au cœur tendre, qu'on n'a pas su comprendre. Je sens que je vais le conduire sur le chemin du repentir pour l'avenir de la France contre la délinquance. C'est bon, je fais le premier geste, que la justice fasse le reste, surtout qu'il soit fidèle. Surtout, je vous rappelle, à l'image de son portrait, qu'il se ressemble trait pour trait. C'est mon ultime condition pour lui accorder mon pardon, qu'on m'amène ce jeune homme. Si la photo est bonne, si la photo est bonne, si la photo est bonne.
Alors Jean-Christophe Labadi, cette exposition de Saint-Marcel Séric semble exceptionnelle, très intéressante. Et vous pouvez nous parler du contenu de cette exposition, de son intérêt aussi
Voilà, oui, alors évidemment, c'est j'allais dire le plus important finalement. On a parlé de l'auteur du fonds, on a parlé de l'histoire du fonds, comment est-il arrivé aux archives, comment on l'a traité, mais on n'a pas parlé du contenu même du fonds, effectivement. Alors, c'est là aussi toute la surprise et tout le plaisir de l'archiviste et de l'historien. C'est-à-dire que quand on a pris les plaques assisteront et qu'on les a mis aux archives départementales, la première chose qu'on a faite, c'est évidemment regarder un peu comme ça, au hasard, à la volée, ouvrir les boîtes. C'est un peu comme un jouet, d'une certaine manière. Hein. Et d'ailleurs, on a la même joie. Hein. Voilà. Et donc, on a ouvert ces boîtes, pour regarder ces plaques. Et on s'est très vite rendu compte qu'elles avaient un grand intérêt à plusieurs points de vue, du point de vue historique, et j'allais dire un grand intérêt dans les sujets traités. Alors, c'est vrai qu'on pouvait déjà éliminer quelques centaines de plaques qui intéressaient, certaines collections peu présentant peu d'intérêt pour l'histoire des départements. Par exemple, je parle des décorations. Là, on avait un peu plus de 100 plaques qui concernaient ce domaine. C'est un intérêt pour les collectionneurs, c'est un intérêt pour connaître Essérick. Ça n'a pas grand intérêt pour le département. Mais on s'est quand même très vite rendu compte, et c'était d'ailleurs un des objectifs de l'exposition, c'était justement de mettre en valeur cette collection. Alors, pour ce faire, on a opéré de la manière suivante. On s'est dit que, d'une part, il fallait donc le montrer. Alors, montrer, c'est toujours très compliqué, parce que comment montrer 1675 plaques, c'est très difficile. Donc, il a fallu faire une sélection. Quand on fait une sélection, au fond, il y a deux façons de faire. Soit on travaille sur une thématique, soit on respecte, c'est ce qu'on a essayé de faire, l'idée du fond, et donc on essaie de présenter un peu tous les aspects de la collection. C'est ce qu'on a choisi de faire, à la fois d'ailleurs dans l'exposition, que dans l'ouvrage qu'on a publié, hein, qui accompagne l'exposition, le catalogue. Voilà, donc c'était notre point de départ. Après, on s'est dit, c'est quand même dommage de présenter des images sans aller plus loin que l'image. Et donc là, j'ai demandé à différentes personnes, des volontaires, hein, toutes volontaires, de choisir une image dans l'ensemble des images et de la commenter. Et ce qui fait que, bon, en fonction des goûts, des intérêts, des recherches des uns et des autres, eh bien, on a, je crois, réussi à avoir plus d'une vingtaine d'études qui sont soit, j'allais dire, correspondent à des études historiques tout à fait classiques, jusqu'au presque à l'histoire personnelle. Par exemple, un agent des archives a choisi une image d'Essérick qui est la maison où elle est née, à Sisteron. Voilà, donc elle a raconté un petit peu l'histoire de sa famille, l'histoire de cette maison, à partir donc des séries. Une autre personne, qui est une historienne, qui travaille sur les enfants trouvés, a choisi le Pontisteron, et un événement très précis, le suicide d'une enfant trouvé, qui avait beaucoup de problèmes visiblement avec son employeur, et qui s'est désespoir suicidé en sautant du Pontisteron. Voilà, donc chacun a choisi, alors on a aussi des études très classiques d'histoire, donc déjà, c'était une façon de montrer tout l'intérêt de ce fonds par des spécialistes, d'une certaine manière, d'une part. D'autre part, on s'est rendu compte que finalement, Essérick, alors évidemment, il y a beaucoup d'images de sa famille, hein, plusieurs centaines d'images, il y a beaucoup d'images de Sisteron, plusieurs centaines aussi, mais que Essérick s'est intéressé quand même à beaucoup de domaines. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, il s'est intéressé à l'histoire, il s'est intéressé aux bâtiments, aux édifices. On a des vues, en particulier dans les Bouches-du-Rhône, il s'intéresse beaucoup à la romanité, hein, donc à toutes les constructions de l'époque romaine. Mais tout doucement, il a glissé, en fait, j'allais dire, vers un patrimoine beaucoup plus ordinaire, et puis vers des sujets beaucoup plus variés. En fait, comme si au départ, on était sur des sujets très historiques, très patrimoniaux, et que tout doucement, il s'en écarte, où il élargit la conception qu'on peut avoir du patrimoine. Hein, si on choisit, on peut choisir l'une ou l'autre option. Voilà, donc Essérick, très vite, va par exemple photographier des villages, les églises, évidemment, qui est le monument central du village, évidemment, mais aussi donc, les villages, des places. On a même une photographie d'un arbre de la liberté. Vous voyez, donc c'est vraiment quelqu'un qui va, j'allais dire, alors c'est vrai que la technique le permet aussi, va mettre des personnes dans ces images, va montrer les gens. Alors je ne dis pas je ne suis pas sûr qu'il ait une démarche ethnographique, puisque je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas d'écrit hein, qui pourrait le dire, et on n'a aucune étude, il n'a rien écrit sur ces images, hein, il faut bien comprendre. Mais on a l'impression qu'il s'intéressait à son environnement. Alors après, je ne sais pas pourquoi, à quelle fin. Est-ce que après, il, je sais pas, dans des réunions familiales intimes, chacun regardait les images qu'il avait faites. En revanche, on sait que beaucoup d'images ont été faites lors d'excursions. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait vraiment un projet. On décidait de partir de Sisteron à plusieurs, on n'était jamais tout seul, soit en famille, soit avec des amis, qui eux aussi s'intéressaient à l'histoire, à la géologie, à la nature, etc. Et donc ils décidaient de partir de Sisteron pour aller sur les routes de Provence ou des Alpes, pour aller photographier. Et donc il y a une sorte de campagne photographique qui était faite tout au long du trajet. Alors, on a comme ça un voyage jusqu'à Barcelonnette, où on a différentes images, et on peut dater quasiment toutes les images et tout ce voyage grâce le chemin qui a été emprunté grâce aux images qui ont été faites. Voilà, donc il y avait quand même quelquefois des projets, et de plus en plus, ces projets s'intéressent à des objets beaucoup plus humbles. On a une très très belle image, moi je trouve qui est tout à fait importante, c'est une image d'un intérieur paysan, c'est extrêmement rare. En général, les images qu'on a des intérieurs paysans sont des images, j'allais dire, ethnographiques, la fin du 19e, début 20e, où tout est fabriqué. Hein, c'est une image très fabriquée. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde est à sa place. Les personnes se sont bien habillées. On a bien rangé l'intérieur. Vous voyez, les objets sont... Il n'y a rien qui traîne. Hein, tout est propre, tout est bien nettoyé, etc. Et on fait l'image pour montrer, par exemple, les différences régionales. Voilà. Là, c'est pas le cas. On a une image qui semble, évidemment, il faut toujours être très prudent, mais qui semble être une image brute. Et en fait, il s'est intéressé. Il n'est pas invraisemblable, comme je disais tout à l'heure, que comme Saint-Marcel Essérick s'intéressait beaucoup à son environnement proche, qu'il ait pris l'intérieur soit d'un de ses moulins, soit d'une de ses fermes. Vous voyez, on a des images, et je le disais, hein, il s'intéressait beaucoup à ses biens, donc il a photographié un peu son côté possédant, vous voyez, j'allais dire, il possède sa maison, enfin ses maisons, il possède presque ses fermiers, vous voyez, ses métayers, ses meuniers, comme peut-être il possédait une partie de sa famille, vous voyez, d'une certaine manière, on peut être dans cette logique-là. Et donc, il n'est pas invraisemblable que c'est un intérieur qui a été donc commenté par Marie-Christine Braillard, hein, qui est conservatrice au Conseil Général, et qui a montré justement tout l'intérêt de cette image, qui paraît toute simple comme ça quand on la regarde et qui en fait est une très grande richesse car il y a des outils, il y a un lit bateau, vous voyez, il y a des chapeaux, voilà. On retrouve un intérieur. Voilà. Alors, ça c'est une image évidemment très particulière, mais on a aussi des images qui sont très très intéressantes, par exemple des images du petit peuple, et en particulier des images de nomades. On a donc un spécialiste de cette question, un historien, qui nous a fait donc la gentillesse d'étudier, de proposer un texte sur ce sujet. Eh bien, on a et Céric, enfin vraiment, s'est intéressé à quelque chose qui est nouveau, hein, dans les campagnes et dans les petites villes de province. Donc ce phénomène qui apparaît, alors qui est à la fois les nomades au sens ordinaire du terme, mais aussi tous les métiers itinérants, hein, que ce soit par exemple les artisans ambulants ou les colporteurs. On a une très très belle image qui concerne un colporteur d'images. Voilà, c'est assez amusant. Alors il est photographié en fait avec le curé et le facteur. Oui, on a les trois vecteurs, j'allais dire, de l'information de l'époque dans le village, qui sont photographiés par Saint-Marcel-et-Céric ensemble. Voilà, ce sont des images qui sont évidemment très intéressantes. L'image, j'allais dire, du monument, beaucoup moins. Vous voyez, c'est vraiment l'intérêt de la collection, c'est le vivant. Vous voyez, c'est finalement la vie des campagnes, la vie des villes. On a des images de Sisteron avec les moutons, vous voyez, en plein milieu. On a des images de Sisteron avec des manœuvres militaires. On a des images de Sisteron avec les enfants qui jouent dans la rue. Vous voyez, c'est des images qui sont intéressante car ce sont des images, j'allais dire, semi-construites. C'est-à-dire qu'il y a une part de construction de l'image. C'est-à-dire qu'en fait, on s'intéresse à ce qu'il y a dans le champ de l'image, hein, en définissant bien le cadrage. Puis en même temps, il y a tout ce qu'on ne peut pas dominer. Les enfants qui jouent derrière au fond, c'est un sujet qu'on ne peut pas dominer. Donc ça montre quelque chose. La personne qui se penche de sa fenêtre pour regarder ce qui se passe, vous voyez, ça, il ne l'a pas maîtrisé non plus. Ou simplement le décor. Il photographie quelque chose qui est dans un décor, qui est un décor naturel. Alors certes, il a choisi l'endroit où il allait photographier, mais il n'a pas fabriqué le décor. Vous voyez, donc tout ça présente beaucoup d'intérêt. C'est vrai qu'on dit souvent que la photographie est un piège, hein, d'un point de vue historique, par rapport au texte. Les historiens ont plus l'habitude de travailler sur la critique de texte. On se méfie un peu de l'image, parce qu'évidemment, elles sont très construites d'une certaine manière. Hein. Ce n'est pas par hasard qu'il a posé son appareil ici. Il n'empêche que ce qui est montré n'est pas totalement maîtrisé. Vous voyez, donc c'est pour ça aussi que ça présente un intérêt particulier.
Mais il me semble que, d'un point de vue ethnologique, quelquefois c'est assez relatif, car il y a un modèle qu'il habillait de telle ou telle manière, qu'il faisait poser dans plusieurs de ses photographies.
Alors en fait, non, enfin exactement. Il a comment dire, Saint-Marcel-et-Céric. Il a utilisé des modèles, en particulier pour ses uniformes, parce qu'il avait une collection, hein, je l'ai dit, d'armes et d'uniformes, et ses amis ont servi de mannequins pour ses uniformes. Donc vous avez, au début ça nous a paru un peu singulier, on a des personnages qui sont pharmaciens ou autres, et qui sont en uniforme militaire tout simplement pour montrer sa collection. Il trouvait que c'était sans doute plus sympathique de photographier à la fois le personnage qui était un ami, dans un uniforme qui évidemment est totalement anachronique. En revanche, il y a très très peu d'images. Alors, c'est vrai que ça, c'est plus la question des personnages récurrents. On s'est intéressé effectivement dans cette exposition à certains personnages récurrents, donc. C'est-à-dire, en fait, en gros, essayer de savoir qui c'est. Pourquoi il présente ce personnage qui apparaît 5-6 fois dans une photographie. Alors, on a comme ça trouvé une femme peintre. Qui apparaît. Alors, il n'est pas invraisemblable qu'elle ait travaillé pour lui ou que c'était pour une peinture pour Saint-Marcel-et-Céric, évidemment, ou un rapport, vous voyez, avec Saint-Marcel-et-Céric. On a aussi une jeune fille, hein, qu'on a pistée un petit peu. On n'a jamais réussi à savoir qui elle était. Est-ce que c'était quelqu'un qui était... Enfin, vraisemblablement, elle devait accompagner soit cette femme peintre, soit Saint-Marcel-et-Céric, donc avoir un lien avec Sisteron, la famille. Mais on n'a jamais su vraiment qui elle était. C'est aussi l'un des intérêts de la mise en ligne. La mise en ligne va nous permettre, enfin on espère, que des personnes puissent en fait identifier,
reconnaître
des personnes, identifier des lieux, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on n'avait pas d'indication précise, et on a environ 130 ou 140 plaques où on ne sait pas, on ne connaît pas soit le lieu, et plus souvent, on ne sait pas qui est représenté. Les portraits, c'est très compliqué. Si vous n'avez pas le nom, comment savoir qui c'était? Voilà. Donc, on souhaite aussi, évidemment, grâce à cette mise en ligne, obtenir des informations de la part du public. On en a déjà obtenu quelques-unes, d'ailleurs. Hein. Des personnes qui nous écrivent en nous disant, voilà, là, moi, je crois que c'est telle personne ou c'est tel endroit. Voilà. Donc, c'est pour nous très, très précieux.
Donc il y a une très belle exposition, il y a aussi un très beau livre qui accompagne cette exposition.
Voilà.
C'est plus qu'un catalogue.
C'est un livre qui fait 192 pages, donc effectivement, c'est un livre qu'on a souhaité donc Le problème des expositions, c'est que c'est éphémère. Hein, voilà, hein, c'est que alors ça permet de créer un événement autour autour d'un là en l'occurrence autour du fonds Saint-Marcel-Hystérique. Mais on souhaite toujours, on est quand même des archivistes et on laisser une trace de ce qu'on fait. Voilà, et on fabrique nos propres archives d'une certaine manière. Donc effectivement, on a souhaité deux choses. On a souhaité dès le départ donc faire un ouvrage où on propose effectivement une sélection d'images. Après avoir raconté qui est Saint-Marcel-Hystérique et comment s'est constituée sa collection. Et puis, on a souhaité aussi mettre en ligne. Voilà, on a fait les deux éléments. La mise en ligne, ça permet à chacun, quel que soit l'endroit où il se trouve, de pouvoir consulter ces images, sachant qu'elles sont toutes indexées. C'est-à-dire, en fait, on peut évidemment les interroger nos bases de données hein, pour trouver l'image qui nous intéresse. Par exemple, je parlais des nomades. Si vous tapez le mot nomade, hein, choisissez le mot nomade à l'index, eh bien, vous trouverez toutes les images où il y a des nomades. Voilà, donc ça, c'était pour nous très important. On a voulu accompagner, dire ce travail qui ressemble, qui est plus un travail de musée, de muséographie, hein, où on montre les choses, d'un travail plus historique et plus archivistique, avec cette effectivement, c'est l'édition de cet ouvrage et de la mise en ligne. Alors je voudrais dire aussi que tout ça est aussi le produit d'un service. Je n'ai pas évidemment travaillé tout seul. Hein. Il y a évidemment des collaborateurs dans les archives départementales, en particulier un photographe, un relieur restaurateur. Voilà, chacun a amené une personne qui s'occupe aussi des fonds iconographiques, hein, qui a aussi travaillé. Donc chacun a amené sa culture, sa connaissance pour finalement faire un travail totalement en interne, c'est-à-dire la numérisation, c'est nous qui l'avons faite, le conditionnement, c'est nous qui l'avons fait, l'ouvrage, c'est nous qui l'avons fait, la seule chose qu'on n'ait pas faite, c'est l'imprimer. Mais tout le reste était fabriqué en interne, voilà. La mise en ligne, c'est nous qui l'avons organisé, vous voyez. Donc on a vraiment, c'est vraiment le travail d'un service. On ne se rend pas compte, en fait, ce fond finalement qui fait quoi, deux armoires, vous voyez, quand il est rangé, le travail qu'il a pu représenter, mais on espère, grâce à ça, susciter en fait aussi des dons. C'est-à-dire qu'on est toujours preneur, nous, de toutes les images. Ce matin, une personne est venue aux archives départementales. Je l'avais rencontrée à l'occasion du vernissage de l'exposition Saint-Marcel-Hystérique. Elle nous a amené 200 plaques de verre, vous voyez. Donc on continue. On a aussi des films qui sont rentrés il n'y a pas très longtemps. Alors on est très heureux que les personnes soient sensibles à ces questions à la fois de conservation, d'histoire et de partage. Parce que quand un objet rentre aux archives départementales, il est partagé ensuite avec tout le public. Ça, c'est très important aussi. Hein, c'est-à-dire qu'il ne reste pas au fond d'un placard ou dans un tiroir ou ailleurs, hein, ou dans un grenier. Il est partagé. Ça, c'est important pour aussi la connaissance des départements ruraux comme les Alpes de Haute-Provence, qui, quand au XIXe siècle, finalement, étaient départements qui intéressait peu, vous voyez, les historiens, les ethnographes. Là, on a la possibilité, finalement, une sorte de retour des choses, la possibilité, grâce à ces dons, de pouvoir avoir une idée beaucoup plus juste, beaucoup plus précise du département, et surtout de constituer des collections qui vont permettre des études historiques, enfin de nature historique, qui vont nous permettre de mieux connaître l'histoire de notre département.
C'est assez passionnant, d'autant plus que c'est une exposition visuelle, c'est de la photographie, et qu'on en a déjà une idée rien que par votre parole.
Voilà,
c'est
assez, merci
c'est
beaucoup.
Assez paradoxal. Voilà. Donc cette exposition, Saint-Marcel-Hystérique, photographe en Provence, 1860-1911, est visible, c'est pas 1911 d'ailleurs, c'est 1915.
C'est la date de il est mort en janvier 1915.
Voilà. Et donc visible aux archives jusqu'au 14 mai. Les archives, c'est ouvert
Alors les archives sont... Alors c'est l'un des problèmes des archives. En fait, les archives ne sont pas ouvertes le samedi et le dimanche. En fait, les archives sont ouvertes tous les jours de 9h à 17h en continu. Donc on peut voir du lundi au vendredi cette collection en Saint-Marcel-Hystérique qui est présentée donc de manière assez classique avec des reproductions d'images. Et puis aussi, on a voulu, pour donner une idée de la collection, on a mis la possibilité de voir les images en continu, donc sur un écran. Et en général, on a les visiteurs qui viennent, restent non seulement visitent l'exposition classique où on a des reproductions photographiques sur papier, mais aussi s'installent pour regarder ces images qui passent en continu et qui sont tout à fait fascinantes et qui sont mises dans l'ordre des plaques, comme les plaques étaient rangées.
Eh bien, Jean-Christophe Labadie, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et bien sûr, à tous nos auditeurs, n'hésitez pas à aller voir cette magnifique exposition aux archives départementales, visible jusqu'au 14 mai. Bonsoir à tout le monde.